There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Vanessa Sidbon, qui est directrice image de Dome. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
On est ravi de t'accueillir pour l'Entertainment Lab, Vanessa. Tout d'abord, quel a été ton parcours avant d'arriver chez Dome ?
Alors écoutez, moi j'ai fait une petite école de commerce à Paris. J'ai surtout fait des rencontres assez incroyables. Je travaillais beaucoup... J'étais plutôt orientée dans la communication et le marketing. Donc, j'ai fait des petites entreprises comme des grosses entreprises en stage, comme Publicis et nous, où, qui a été une très, très, très bonne expérience. Et dernièrement, j'ai préféré passer de l'autre côté, côté annonceur, parce que j'avais l'impression qu'effectivement, j'allais avoir plus de poids au niveau des campagnes et au niveau du storytelling. Donc, j'ai décidé de relever le challenge familial il y a plus de 10 ans.
Voilà, alors tu as dit le mot familial, donc c'est l'histoire d'une structure familiale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ce projet Dome, il est né ? Et voilà, qu'est-ce qu'il caractérise ?
Alors, j'ai un grand-père assez extraordinaire qui a créé un des premiers groupes autour des arts de la table en 2005 avec le rachat de la maison Havilland, la petite orfèvrerie Europe Félix qui dernièrement a changé de nom et s'appelle Effet 1875 et une cristallerie légendaire qui s'appelle la Cristallerie Royale de Champagne qui était une des plus anciennes cristalleries de France. Donc on avait une offre complète dans les arts de la table et on est rentré dans la décoration d'intérieur fin 2008, début 2009 avec la maison Dome. Donc le groupe s'est constitué sur les savoir-faire français et sur des maisons avec un patrimoine très très fort.
Voilà, on va le mentionner, donc c'est Prosper, son prénom.
Prosper Amouyal.
Prosper Amouyal qui a été l'entrepreneur. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'il a flashé sur ce style d'activité finalement ?
Il a, comme beaucoup, généralement, on a un rapport assez émotionnel avec des marques assez patrimoniales quand on est français. Mmh. Et le service qu'il avait chez lui dans son enfance et qu'il sortait lors des fêtes de famille, c'était un service à Havilland. Donc, quand il a vu que cette maison allait mourir, il a refusé de la laisser mourir et il a décidé de relever le challenge avec ma mère, Myriam Pariante, qui a été aussi un élément vraiment moteur dans toute cette constitution de groupe. Et on a relevé le challenge en famille, donc on a eu plusieurs générations qui travaillent encore aujourd'hui dans l'entreprise.
Une belle histoire, hein, une super histoire de famille en tout cas qui est inédite. Est-ce que sur Dome, comment tu définis aujourd'hui cette marque, la marque Dome ?
Alors c'est une cristallerie française. On a une particularité, c'est que nous utilisons la technique de cire perdue et de pâte de cristal. Donc ça veut dire que chaque pièce est sculptée à la main, chaque pièce est démoulée à la main et que chaque pièce est unique. Donc on a un savoir-faire exceptionnel. On est en plus une des rares manufactures à être en centre-ville puisque nous avons un atelier de création qui est à Nancy même et l'atelier de production qui est à Vannes-le-Châtel à 50 km de Nancy.
Bon bah super. Made in France, ça c'est top.
Made in France et le groupe s'est constitué vraiment autour de Made in France. On y tient. On ne fait aucune étape à l'étranger. On n'envoie pas ni de pâte, de porcelaine, ni d'assiette, ni de cristal à droite, à gauche pour pouvoir répondre à aujourd'hui des besoins de prix. Nous avons mis un point d'honneur sur l'excellence, sur le patrimoine et la transmission de ces savoir-faire. Et aujourd'hui, le but de tout ce groupe, c'est que dans 20 ans, dans 200 ans, on puisse encore parler de ces maisons-là et qu'effectivement, nous, on ait relevé le challenge de dire qu'on a réussi à les faire évidemment exister et les faire grandir et qu'elles aient aujourd'hui la notoriété qu'elles méritent.
D'accord. Quelques mots sur les produits alors, qui sont les produits phares pour toi de Dôme?
Alors, faut savoir que la maison Dôme a eu un impact très important pendant la période des arts décoratifs, l'art nouveau, l'art déco. Il faut savoir que le premier atelier de création autour des artistes s'est créé en 1891 et il avait pour but d'avoir un échange entre les artisans et les artistes de l'époque. Et en réalité, c'était les prémices de l'école de Nancy. Ça a été les débuts où Émile Gallet a commencé à travailler avec la famille Dôme, et surtout on s'est rendu compte à quel point il y avait des valeurs absolument extraordinaires et des savoir-faire extraordinaires dans l'Est de la France, avec des noms magiques, et ils ont créé l'école de Nancy, qui a permis derrière de pouvoir faire rayonner la France à travers les expositions universelles dans les périodes des arts décoratifs. De ces périodes-là, nous avons gardé trois thématiques très très fortes qui sont la femme, la faune et la flore. Et de ces trois thématiques, aujourd'hui, on essaye de réinventer chaque style, chaque couleur, puisqu'il faut savoir que Dôme aussi est spécialiste de la couleur et c'est ce qui va nous différencier des autres cristalleries. Nous avons une palette de plus de 40 couleurs à notre actif et nous créons entre une et deux couleurs par an, ce qui est assez important. Mais ça montre qu'aujourd'hui, on peut avoir plus de 140 ans d'existence, toujours être made in France, avoir des savoir-faire français et des techniques françaises, et surtout pouvoir être challengé et challenger le monde. Parce que c'est aussi ça notre enjeu. C'est difficile quand on pose souvent la question qui sont vos concurrents aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de concurrents quand on parle de Baccarat, quand on parle de Lalique? Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisqu'en fait, nous avons tous des techniques de fabrication différentes, Saint-Louis aussi. Nous avons tous un ADN différent. Donc aujourd'hui, nous devrions nous réunir.
C'est une filière, en fait, de métier.
C'est la France. Et aujourd'hui, on veut nous interdire, l'Union européenne veut interdire le plomb et donc veut changer un petit peu la donne au niveau du cristal. Et nous sommes les seuls Français à nous battre, parce que c'est vraiment un savoir-faire français et un métier français. D'accord. Forcément, il n'y a pas de cristallerie en Suède, donc les Suédois...
Alors, si on parle du cristal...
ça ne les touche pas.
Alors, c'est génial que tu racontes tout ça, ça nous fait voyager. Je pense que les auditeurs, ils découvrent un métier, même moi d'ailleurs. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est très artistique.
Bien sûr.
J'aime beaucoup ton...
Et très artisanal.
Début, en plus, tu parles de l'art nouveau, qui est quand même la période juste avant la Tour Eiffel, et enfin, qui est une période marquante pour la France. Ça, tu peux en parler. C'est quoi? C'est l'art de la céramique? Comment le cristal, il se crée?
On s'est différencié par un style. En gros, si vous voulez, avant, on avait des guerres mondiales qui permettaient... Alors, c'est difficile de parler comme ça parce qu'on parle souvent des guerres que de façon militaire et de façon sociale. On ne parle jamais des guerres sur qu'est-ce que ça a créé dans les manufactures. En réalité, chaque déclenchement de guerre, vous aviez tout le monde qui partait à la guerre. Donc, à la fin de la guerre, quand vous réouvriez la manufacture, il fallait savoir d'abord quel savoir-faire vous aviez gardé, quel homme était encore là, et surtout, il fallait marquer un changement. Qu'est-ce qui fait que la période Art Nouveau a été balayée par la période Art Déco? C'est la Première Guerre mondiale. Il fallait marquer ce changement. Et donc, le style est allé avec, et donc toute la décoration aussi allait avec. Et pareil pour la Seconde Guerre mondiale, où on a balayé l'Art Déco, où on est passé sur des styles, en tout cas pour les collections Dôme, sur des collections avec des pièces qu'on a appelé nous plus utiles pour les intérieurs parce qu'il fallait reconstruire l'Europe et que les gens avaient besoin d'objets utiles. Donc, il y a toute une explication d'après les guerres qui est très intéressante à découvrir en fonction des manufactures et justement qui ont permis l'évolution aussi de
la gamme.
Bien sûr, et des maisons.
C'est intéressant à t'écouter comme c'est vrai que c'est qu'on se le dit pas spontanément parce qu'on peut penser aux des musées, dans l'histoire, dans les époques, mais finalement, comme tu dis, la décoration, l'art de la table accompagne des périodes et finalement on garde une trace de tout ça . Donc c'est très très intéressant. On va parler justement du patrimoine qui est un point important. Je crois que ça c'est, tu voulais en parler. Il y a finalement un art de vivre à la française qui est derrière Dôme et c'est ça qu'on ressent dans ce que tu dis. Comment tu le définis toi et pourquoi c'est très important pour la filière patrimoine en France?
Je pense que c'est ce qui définit la France. Vous savez, quand on ouvre les portes de nos manufactures à des industriels étrangers,
oui,
la première réaction, c'est « mais vous êtes complètement fous, les Français. Pourquoi vous n'investissez pas plus dans les machines et pourquoi vous mettez l'homme encore aujourd'hui au cœur de vos stratégies? Mais c'est ce qui définit la France. C'est ce qui définit notre artisanat et c'est ce qui définit aujourd'hui qui nous sommes. Voilà. Les plus beaux ambassadeurs de la Maison d'Aume sont les Nantiens. Il faut savoir que quand ils voyagent et où qu'on soit dans le monde, n'importe quelle exposition, que vous soyez en Corée ou que vous soyez au bout des États-Unis, vous avez toujours un Français qui va arriver, qui va dire oh, mais j'ai un lien affectif avec ces maisons. Voilà. D'accord. Et c'est là où on va changer la donne. C'est pour ça que je trouve ça souvent assez facile que quand on parte à l'étranger, on parte, alors évidemment, avec des grosses entreprises, Airbus, avec ces grosses entreprises qui font aussi évidemment la valeur ajoutée de la France. Mais c'est nos artisans aujourd'hui qui définissent notre ADN. C'est nos artisans et nos gestes et nos mains.
Exactement. Et voilà. C'est des métiers qui doivent être aussi revalorisés, puisque nous, on avait travaillé, je t'en avais parlé avec le Festival des Pins, mais il y a aussi beaucoup de filières au-delà de ce que tu dis sur l'artisanat d'art, bah, qui est très important, mais qui a aussi besoin d'être revalorisé à travers les formations, les gens qui vont travailler là-dedans, les nouvelles recrues et tout ça. Quoi.
Alors, c'est l'enjeu de demain. De convaincre cette nouvelle génération avant. En fait, pour être honnête avec vous, avant, les artisans, c'était des histoires de famille. C'est de père en fils, ils rentraient dans la manufacture. La dernière génération a considéré que non, ils voulaient une vraie évolution sociale de leurs enfants et que l'évolution sociale devait passer par le changement des métiers. Parce qu'on avait perdu cette valorisation des métiers d'art. Heureusement, depuis le Covid, les gens reviennent un petit peu à ces métiers d'art et reviennent à ce qui nous paraît, nous, être les choses essentielles. Et donc, notre enjeu de demain, c'est de convaincre cette nouvelle génération à travers des actions très concrètes. La nouvelle génération a besoin d'engagement, a besoin de savoir qu'ils travaillent pour des entreprises qui sont engagées, pour l'écologie, pour la société, pour les femmes. Voilà, différents sujets. Aujourd'hui, nous ne passons plus, d'ailleurs c'est assez amusant, quand vous faites passer des entretiens avec des jeunes, aujourd'hui c'est eux qui vous font passer l'entretien. Ce n'est plus vous.
Ça, c'est pas faux.
Et c'est assez intéressant de voir justement...
Le rapport au travail, c'est inversé en tout cas.
Oui, mais aussi parce qu'ils ont besoin d'engagement.
Et de valeur et de sens.
Ils ont besoin de ces engagements. Donc c'est à nous de pouvoir changer aussi un petit peu l'état d'esprit des entreprises pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle génération. Vous savez, pendant le Covid, on a eu quasiment, enfin la période du Covid, on a eu quasiment plus de la moitié des artisans qui sont partis à la retraite. Si vous avez encore cette espèce de guéguerre entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, bah vous perdez les savoir-faire et on recule. Et ça c'est indispensable pour nous de trouver des solutions pour qu'il y ait toujours ce lien qui se crée pour ne pas perdre ses savoir-faire. D'imaginer des start-up, bon, vous avez quelqu'un qui va imaginer une start-up, ça va exploser, ok, il va apprendre un métier qui sera le métier phare d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous rendez compte de quand vous avez 140 ans, 180 ans d'existence,
oui,
l'importance de pouvoir garder, surtout qu'à l'époque, ils n'écrivaient pas grand-chose, parce qu'en fait, ils avaient tellement peur de l'espionnage industriel qu'ils transmettaient par voie orale. Donc, quand vous avez une vraie coupure de génération, bah vous perdez tous ces savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème.
Comment tu définis justement ces métiers, les métiers finalement qui sont derrière Dôme? Tu peux peut-être en parler. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un designer, ça peut être un fabricant, pour que les gens voient vraiment de quel type de métier.
Alors, notre grande force, c'est qu'aujourd'hui, on forme. On est devenus des organismes de formation à part entière. Nous formons de A à Z. Donc, on a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui n'ont jamais été manuels à travers différentes vies et qui viennent aujourd'hui et qui ont envie de redonner du sens aussi à leur métier. Donc, on les forme. On a différents métiers. Aujourd'hui, on a par exemple l'atelier de modelage. L'atelier de modelage, c'est des sculpteurs. Vous avez des sculpteurs qui peuvent passer 200, 400 heures sur la même pièce pour arriver à lui donner un détail absolu qui va faire que vous allez avoir en cristal une pièce que personne ne saura créer dans le monde. On a aujourd'hui beaucoup, on se rend compte et c'est vraiment une guerre parce qu'on a beaucoup d'usines qui nous copient, mais ils nous copient, heureusement pour nous, personne n'a réussi à atteindre notre niveau d'excellence, notre niveau de détail et on se bat pour le préserver. Voilà. D'accord. Donc vous avez donc toute cette partie qui est
souffleur,
un peu sculpteur.
Peut-être un peu souffleur.
Alors on souffle plus
vous
le cristal plus. Chez Dôme.
Avec...
Non, pas du tout. On souffle plus. On a le dernier souffleur de cristal est parti à la retraite pendant le Covid. Qui lui avait en charge toute la partie art de la table chez Dôme qui a été arrêtée depuis et on s'est concentré vraiment sur la technique de cire perdue et pâte de cristal. Parce qu'aujourd'hui, c'est différentes techniques et qu'il faudrait une organisation très précise de la manufacture avec un changement des fours et surtout une équipe régulière qui fait que voilà, on a gardé et on, même si on a essayé de centraliser les métiers autour du cristal, on essaye de garder quand même notre technique la plus forte.
D'accord. Donc ce que tu mentionnerais comme les pièces les plus notables, ça peut être donc les verres, les vases, quelles pièces t'aimes
bien. Alors l'art de la table Dôme a été très très fort. Il faut savoir qu'on s'est lancé dans les arts de la table dans les années 30 quand on a remporté un appel d'offres du paquebot Normandie qui nous a imposé à pouvoir faire de l'art de la table en cristal. Et c'est pile à ce moment-là que justement la famille Dôme s'est dit bah pourquoi pas, on va aller tester aussi le cristal. Je schématise un petit peu, mais ce qui fait la différence entre le verre et le cristal, c'est le plomb. Voilà.
D'accord.
Je schématise un petit peu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que vous avez un verre en verre ou en cristal, c'est que vous avez rajouté du plomb. Ce qui pose problème, évidemment, pour l'Union européenne aujourd'hui, c'est cette matière-là qui n'est pas biodégradable, effectivement. Donc, nous travaillons tous, malheureusement, de notre côté. On n'a pas uni nos forces pour le moment, mais chaque manufacture travaille sur une nouvelle formule pour, effectivement, demain, pouvoir proposer une nouvelle méthode sans plomb. Donc, c'est pour ça que vous avez des mots qui sont arrivés comme le cristallin, comme le cristal sans plomb. Voilà, il y a une espèce de flou juridique qui tourne un petit peu autour de nous parce qu'on a cette épée Damoclès qui va nous tomber dessus, on le sait. Mais on espère le plus tard possible.
Pour aller un peu dans les coulisses, bon, sans tout dévoiler, parce que c'est très intéressant dans ce secteur, on imagine ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a ce côté artisanat, production de pièces et de produits, comme tu le dis. Puis en même temps, c'est une entreprise, il y a l'aspect marketing, l'aspect commercialisation. C'est organisé vraiment sur les deux pôles, tu dirais, l'entreprise ?
Non, l'essentiel est reste dans les manufactures.
La prod, c'est le gros.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, les investissements du groupe se font autour des manufactures et autour de tout le programme d'embauche des artisans et de formation des artisans. C'est vraiment le cœur de notre entreprise. Si nous perdons ces savoir-faire et si nous perdons ces artisans...
Ça a commencé là-dessus c'est le cœur de l'activité.
Nous perdons tout.
Et alors c'est marrant, tu as parlé d'un sujet intéressant, tu as dit aussi cet aspect financement par rapport aux usines, aux manufactures. On sait que la France, par exemple, peut avoir un petit peu de recul par rapport à l'Allemagne sur ces aspects d'investissement. Comment tu vois cet aspect, toi, d'investir ? Parce qu'à un moment, pour être à la pointe, innover, j'imagine bien que ça représente des moyens et on sait que parfois la France peut être un petit peu plus en retard par rapport à d'autres nationalités.
Alors, je vais vous dire, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est face à des énormes groupes qui appartiennent à des fonds d'investissement. Donc, quand vous appartenez à un fonds d'investissement américain, chinois, vous avez des moyens qui sont importants. Quand vous avez une entreprise familiale et que vous êtes français, il faut s'accrocher parce qu'on ne vous fait aucun cadeau en tant que français. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je regrette un petit peu. Mais vous avez un engagement de cœur et de tête.
Oui.
Vous avez un engagement qui fait que... voilà. Donc oui, les investissements sont énormes. Nous, on a eu un arrêté préfectoral sur la manufacture Dôme qui nous a imposé à faire plus de 3 millions d'euros de travaux. Mais aujourd'hui, effectivement, on a un nouveau bassin, on récupère l'eau de pluie, on a fait des choses incroyables et on est très très fiers de pouvoir le dire. Mais effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous n'avez pas la machine de guerre d'LVMH, de Kering derrière peut financer. Même si, je tiens à le dire aujourd'hui, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils ont sauvé... Ils ont sauvé la France. Le pouvoir de la France aujourd'hui, et vous vous rendez compte quand vous êtes à l'international...
C'est malheureusement parce qu'on leur dit tous les jours.
Non, mais le pouvoir de la France, il est là.
Oui, en termes d'emploi, de savoir-faire et puis de l'international.
Mais l'international, je viens de faire j'ai visité 8 villes chinoises. n'y a pas un mall qui se construit sans que LVMH ait dit oh bah nous on arrive et avec quelle maison. C'est pareil au Moyen-Orient. Enfin, c'est incroyable de vous rendre compte ça. Bien sûr. Mais il faut les remercier parce que Bernard Arnault, tous ces énormes patrons, ils ont mis et ils mettent aujourd'hui leur cœur et leurs sous sur la table. Et on est très contents quand vous avez Notre-Dame qui flambe, de se dire qu'on a les grands patrons français qui viennent sauver aussi notre
c'est
patrimoine.
C'est bien un petit coup de petite note un peu engagé, mais c'est vrai que je partage ton point de vue que bah, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, bah, font quand même travailler. Et on le sait, la France, il faut aussi...
C'est eux qui prennent les risques. C'est eux qui prennent les risques aujourd'hui.
Et puis surtout, ils font rayonner la France à l'international, qui est quand même une vraie fierté quand des marques sont aussi appréciées. Et qu'en plus, quand tu dis « contribuer à la société », ça, c'est clair que c'est le top. Le point quand même important sur cet aspect international, aujourd'hui, ça représente vraiment plus de la moitié du chiffre d'affaires.
Oui, on est à ce point-là. Le chiffre d'affaires est fait essentiellement à l'international, puisqu'aujourd'hui, ça représente 70% de notre chiffre
d'affaires. Ah, c'est énorme. Et ça, c'est vrai depuis depuis combien d'années, tu dirais ?
Depuis assez longtemps.
Bon, on ne va pas dire les chiffres exacts, mais c'est assez marquant de voir qu'à quel point vous êtes tourné. Donc, les pays qui vont être clés, donc ça va être la Chine, ça va être le Moyen-Orient, Dubaï, les US, évidemment. Tu dirais quoi, les pays ?
Je vais être honnête avec vous, dans la situation actuelle, c'est très difficile de pouvoir dire
on
les pays.
On peut pas théoriser, d'accord.
On est dans une situation sociale mondiale qui est quand même dure.
Enfin, l'Europe est très malade en tout cas.
Le monde est très malade. Quand on voit tout ce qu'on voit, le monde est malade.
On va pas forcément parler de géopolitique.
Non,
mais
du coup, ça joue beaucoup sur nos entreprises parce que les entreprises françaises sont boycottées. Chaque avis ou chaque décision que nos présidents prennent, il y a un impact direct sur nos entreprises. Et il faut le savoir.
Bah, c'est pour ça qu'on voulait t'inviter aussi, pour amener un peu de positif, parce que je pense que nous en avons tous besoin dans notre société actuelle. Et on voulait avoir un exemple, justement, d'une entreprise qui s'est construite année après année, parce qu'on sait le travail que ça représente et qui emploie des gens, aussi fait vivre des régions. C'est important aussi de parler du local. Tu as mentionné Nancy. Donc, c'est très important pour la France parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes de province qui, c'est des bastions qui vivent grâce aux manufactures, grâce à ce type d'industrie. Peut-être en parler un peu quand même.
La métropole, il faut savoir que, honnêtement, merci à eux parce qu'ils nous aident au quotidien. Ils nous invitent quand vous avez des médias qui viennent faire des plateaux télé, des plateaux de radio dans les villes. Ils invitent pour promouvoir, évidemment, les savoir-faire régionaux. Mais il contribue aussi, je parlais de l'arrêté préfectoral, on a eu un maire, Monsieur Rossino, qui s'est battu pour la Maison Dôme, puisqu'il a la Maison Dôme dans sa chair et dans son sang en étant d'ancien. Donc heureusement qu'on a des hommes et des femmes engagés aujourd'hui politiquement et qui nous aident, parce que sinon on serait effectivement laissé un petit peu seul face à des énormes groupes et on ne pourrait pas faire le poids.
Et ça, c'est plutôt, je pense, optimiste peut-être pour les années à venir, parce qu'on a vu une vraie décentralisation qui se développe depuis le Covid. Et je pense que ça va montrer que des villes, Nancy, vont aussi tirer leur épingle du jeu et se développer. Enfin, c'est ce que je souhaite pour l'avenir. Alors, on va arriver dans la dernière partie du podcast. Vanessa, parler un peu de modernité, de tradition, parce que tu es la directrice de l'image. Donc, on revient sur nos métiers du brand entertainment avec le podcast. Est-ce que tu peux en parler de ces points, de ces tendances d'innovation que tu trouves importantes? Je sais que ça peut être lié à des nouveaux formats digitaux, au QR code, à la réalité augmentée. Donc, vous prenez aussi tout ce pli. Je parle pas forcément d'IA non plus, mais bon, peut-être que tu vas glisser deux mots là-dessus. Mais voilà, comment ces métiers peuvent aussi se moderniser et quels sont les axes, toi, que tu mets en place par rapport à ça ?
Alors, le Covid a été quasi troisième guerre pour nous, nous entreprises.
Pas que pour toi, pour tout
non,
le monde.
Pour nous entreprises. Je parle vraiment encore du spectre entreprise.
Non, mais je généralise, c'était un séisme mondial,
mais ce qui a permis aussi de se remettre en question. C'est difficile aujourd'hui de parler encore une fois de choses positives du Covid, parce qu'il y a eu tellement de morts et que c'est tellement dramatique ce qui s'est passé qu'évidemment on a tous été concernés. Mais ce moment où de stop. Mm-hmm. permette aussi une remise en question. Et donc, nous, on a effectivement décidé de prendre le pli de ce côté digital. On a réalisé les pièces les plus impressionnantes de la Maison Dôme en réalité augmentée, ce qui permet...
C'est étonnant, c'est
incroyable, mais on a un pan, par exemple, qui est en édition limitée à 8 exemplaires, qui est signé d'une artiste qui s'appelle Madeleine van der Knoop, qui est un pan qui fait 1,90 m de haut, qui a représenté plus de 2 ans de recherche et développement pour nous. Ce pan, aujourd'hui, est en réalité augmenté et permet à tous les décorateurs et les architectes d'intérieur de pouvoir projeter les pièces les plus incroyables de la Maison Dôme dans leur projet. Donc, on rentre et on met un pas aussi, évidemment, dans ce côté digital et on essaye de démontrer que c'est pas parce qu'on s'appelle Dôme qu'on a plus de 140 ans, qu'on a effectivement un savoir-faire et des techniques ancestrales, qu'on ne s'adapte pas et qu'on ne peut pas s'adapter aujourd'hui aux évolutions qui sont normales et qui nous permettent, nous, de relever ces différents challenges.
Quand tu, pour préciser, sur la réalité augmentée, c'était diffusé de, sous quel format?
Alors, cette pièce c'est un QR code et d'accord. Vous scannez votre QR code avec votre portable et puis après, vous pouvez diffuser dans l'endroit où vous vous trouvez, dans un showroom, dans une maison ou d'accord. en 3D, le fichier du pan que vous pouvez tourner, agrandir, évidemment aussi... regarder le moindre détail. Donc, ça vous permet, pour une pièce qui a plus de 300 000 euros, parce que c'est aussi pour des pièces incroyables, pour ces pièces incroyables, ça vous permet quand même de regarder avant d'acheter.
D'accord.
Donc, on a un autre challenge. On a différents challenges. On a beaucoup parlé de la métaverse. Nous, aujourd'hui, on regarde un petit peu de loin la métaverse, mais à un moment donné... Oui, c'est un petit peu retombé, mais parce que...
Après l'essor de l'IA...
Oui, mais comme toute nouvelle technologie, il faut aussi que les gens testent des choses. On va changer, on va évoluer.
Il y a un effet médiatique qui va être ensuite assaini parce qu'il y a la réalité économique qui va reprendre le dessus. Je sais qu'il y a eu déjà... tu parlais d'LVMH tout à l'heure. Ils ont commencé, je crois, à initier des choses liées à tout ça, au métaverse et tout ça. Toi, tu y crois beaucoup, des nouvelles expériences virtuelles où tu vas pouvoir voir tel ou tel produit. Je ne sais pas si tu l'as testé déjà, d'ailleurs.
Non, pas encore. Mais j'y crois beaucoup parce que, par exemple, hier, pour tester un nouveau marché, si vous décidiez de vous implanter en Corée, bah, vous deviez ouvrir un premier point de vente, trouver un bon partenaire.
Oui, c'est lourd.
Et vous avez des coûts énormes. Alors que demain, peut-être qu'à travers la métaverse, on aura une boutique avec des vendeuses qui parleront la langue adéquate à la personne qui arrivera et qui s'adapteront aussi. Par exemple, typiquement, il y a encore quelques années, quand on avait des grandes princesses qui venaient nous voir rue Royale ou rue de la Paix, on nous demandait d'adapter notre merchandising en fonction de la volonté de la princesse. Demain, ça se fera de façon automatique avec l'intelligence artificielle. Alors, certaines personnes ont peur de cette intrusion dans la vie et de ce que ça peut représenter, mais il faut aussi voir les côtés très bénéfiques. Le gain de temps. Je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants, je travaille énormément et j'ai très peu de temps. Donc moi, les pubs ciblées, très honnêtement, c'est quelque chose qui me plaise parce que je perds beaucoup moins de temps. Mmh. Et on a beaucoup parlé d'Amazon en négatif et je sais qu'il y a énormément de choses à revoir, mais je peux vous assurer que pour les mères de famille, Amazon, ça nous a sauvé la vie. Ouais. Parce que ça nous permet de travailler.
Il y a pas mal de monde à qui ça a sauvé la vie.
Mais il faut pouvoir aussi dire que ces nouveaux services permettent aussi l'émancipation de la femme et permettent aussi à nous, en tant que mères, de pouvoir aller travailler, d'avoir des gros postes à responsabilité pour pouvoir assurer notre vie de famille et notre vie professionnelle.
Point de vente, tu l'as pas. Comment tu fais la partie distribution? C'est vrai qu'on en a un peu moins parlé.
On a une filiale aux États-Unis avec une nouvelle boutique à Miami, un showroom à New York. On a une filiale en Asie avec une boutique à Singapour et un showroom à Hong Kong. Et on a en France 2 boutiques à Paris, 1 boutique à Nancy. Ça, c'est le réseau vraiment propre de la marque. Après, nous sommes revendus à travers le monde, à travers des partenaires, des revendeurs et des agents.
D'accord. Et physique, et tu as un peu de vente online? L'e-commerce commence à se développer aussi, j'imagine.
Oui. Ah bah, depuis le Covid, le e-commerce et le CA de l'e-commerce a explosé. Et on a, par exemple, proposé des discussions WhatsApp en direct avec des personnes de la société. Ça nous permet de créer un lien direct avec le client, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur notre site internet, donc de pouvoir être réactif, mais surtout de proposer un service client à la hauteur des maisons.
Quelques mots sur le social media, qui est un point qui est important aujourd'hui. Comment tu vois cet aspect-là d'influence digitale, de quel canal tu vas prioriser ? Bon, c'est plus des questions de mon métier, mais comment tu vois cet aspect de création de contenu pour toucher les gens, bah, tout ce que tu as communiqué d'ailleurs dans ce podcast, réussir à créer une relation plus durable avec vos publics, en digital notamment ?
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les réseaux sociaux nous permettent quand même, avec très peu de choses, de pouvoir toucher énormément de gens. Donc nous sommes des maisons avec un storytelling très très fort, on a énormément de choses à raconter. On crée, pour la Maison Dôme, on crée entre 60 et 80 nouvelles pièces par an, ce qui est énorme. Mmh. Donc d'avoir la visibilité, de pouvoir parler de tout et de tout montrer, c'est grâce aux réseaux sociaux. Le podcast aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir des personnes qui nous interrogent sur différentes thématiques et de pouvoir aborder nos métiers de façon différente. Donc profitons de tous ces canaux de distribution qui nous permettent de parler et de toucher les personnes de manière différente. Après, nous faisons appel à des influenceurs professionnels. Quand je dis professionnels, c'est-à-dire que quand on va décider de faire un partenariat, ça va être avec un chef. Voilà. Ça va être avec un vrai chef. Il est aujourd'hui...
Tu privilégies les gens dont c'est vraiment le métier, peu pure player food et pas forcément influenceur avec une très grande audience.
Non.
Tu penses qu'il faut une vraie légitimité de création de contenu.
Mais il faut surtout des personnes qui comprennent oui. qui nous sommes. La personne qui va croire qu'elle va, parce qu'elle va recevoir un vase, va pouvoir en parler mieux que n'importe qui, non. Je suis désolée. Il faut pouvoir expliquer pourquoi ce vase-là fait cette taille-là, en quelle matière, comment il a été fabriqué, par qui il a été fabriqué et qu'est-ce qui fait la différence entre ce vase-là et un vase made in Amazon
Exactement.
Et China.
Donc tu tiens à cette expertise qui vraiment vous définit. Alors ça, c'est j'arrive à la dernière partie, c'est les goûts personnels de l'invité. C'est la question que je pose toujours aux invités. Donc en matière de séries, ciné, littérature, musique, bande dessinée, voilà des créations qui peuvent... qui t'accompagne, soit récemment, soit
Alors,
de tout temps.
Moi, j'aime beaucoup le cinéma français. Les anciens films de Funès, et d'ailleurs, c'est assez amusant de se rendre compte à quel point la société évolue. Quand on les regarde aujourd'hui, il y a des choses hallucinantes.
Donc, c'est le cas, quoi, Gendarmes à Saint-Tropez.
Gendarmes à Saint-Tropez, il y a un nombre de références, les gendarmettes racistes, hallucinants, mais même misogynes. Voilà. Mais aujourd'hui...
Ils vont faire la négation de ces trucs-là.
Non, mais surtout
pas. Parce que
mais
c'est pas bien de.
Pas. Moi,
il y a un mouvement un
ça
peu
sert
qui
à
se...
rien d'effacer l'histoire. Ouais.
C'est... Au
l'histoire
contraire, c'est une trace.
Fait... Bien sûr, mais l'histoire fait de... qui nous sommes aujourd'hui. Au contraire, il faut le raconter pour ne plus le reproduire. Ne jamais effacer l'histoire.
D'accord. T'aimais bien quand sur le OSS 117, sur les Dujardin qui jouaient avec ce personnage un peu raciste.
Alors, c'est amusant parce que je vais vous dire, j'ai montré à la meilleure amie de ma petite sœur dernièrement Le Père Noël est une ordure, qui est un de mes films
D'accord.
préférés.
Ah ouais.
Et elle m'a regardée, elle m'a dit c'est quoi cet humour ? C'est pas possible. Alors que moi,
t'aimes les trucs très satiriques.
Mais c'est très français comme humour. Et effectivement, je pourrais pas expliquer à peut-être un étranger pourquoi nous on rigole d'un Thierry Lhermitte qui d'ailleurs j'étais à deux doigts de m'énerver. Enfin, c'est toutes ces répliques, les bronzés font du ski, c'est exceptionnel. Mais c'est ça être français aussi.
Bah, c'est sûr. Il est venu. C'est un de nos premiers invités, Patrice Lecomte. Hein. On le salue. Et donc, les bronzés, évidemment, qui fait toujours le meilleur
Sophie Marceau avec l'étudiante.
Télé.
L'étudiante, ça a été.
Boum, hein.
Ça a été. Oui, mais pour nous, l'étudiante, ça a été un. Sophie Marceau, elle représente quand même une femme assez forte. Une femme engagée sans être complètement hystérique. Et aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir rappeler ces icônes qui ont fait, qui font qui nous sommes en tant que Français.
Ou Belmondo, là j'étais à Cannes, quand on est à la gare, j'avais jamais remarqué, t'as la photo de Bébel quand il avait 50 ans dans la force de l'âge. Je me disais, ça fait partie de la France.
Mais
ces icônes font partie de la France, même après leur décès. Quoi.
C'est... Vous pouvez prenez une chanson de Johnny Hallyday que vous allez diffuser n'importe où dans le monde, de Céline Dion, de Jean-Jacques Goldman, que vous pourrez diffuser n'importe où dans le monde, vous verrez que les Français se retrouveront à chanter. Parce
Exactement.
Que c'est ce qui nous caractérise.
C'est bien, ça va faire plaisir la francophonie, tout notre podcast, là, fait rayonner un peu la France. Et en musique et en littérature, il y a un truc qui t'a marqué.
Alors, musique, pour le coup, je suis très internationale parce que je suis aussi une enfant Michael Jackson, je reconnais.
Bon, bah voilà, les
et les
sûres,
États-Unis. Hein. Oui, mais c'est intéressant de voir comment on a grandi avec cet amour des États-Unis. Et aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de mes copains qui reviennent en disant « Oh là là, les États-Unis, on a l'impression que ça a perdu de sa superbe. » Non.
Ça dépend de leur choix de président en novembre,
c'est
on va dire.
C'est juste que culturellement, peut-être qu'ils ont moins de poids sur l'art, moins de poids sur la musique. Sur nous.
Enfin, dans l'inconscient.
Oui,
et les collectifs et les références, ils sont encore très forts.
Et heureusement, ils nous sauvent aujourd'hui pour beaucoup de situations. Mais on est aussi ouvert à des nouveaux pays du Moyen-Orient ou d'autres et on découvre des chansons absolument extraordinaires.
D'accord. Tu n'as pas vu que Oppenheimer ?
Si.
Tu as aimé
le
film ?
Je l'ai vu dans l'avion.
Tu as aimé le film ou pas ?
J'ai adoré. J'ai adoré, mais je vais vous dire, ça m'a angoissé plus qu'autre chose, surtout dans les. Surtout en ce moment, parce que on a quand même...
Oui, il y a des similitudes avec ce qui est en train de se passer.
Non, mais puis on se rend compte que la bombe atomique, elle a été lancée un peu presque par égo, pardon de dire ça, plus que par nécessité de guerre, contrairement
comme
à ce qu'on nous...
Comme souvent les guerres, malheureusement.
Contrairement à ce qu'on nous a raconté à l'école depuis tout petit.
Et Anatomie d'une chute, tu l'as vu ou pas ?
Je l'ai vu, mais je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas.
Ah,
je suis désolée.
Tu n'as pas...
J'ai pas accroché.
Pas
accroché. Voilà.
C'est un film, les gens soit aiment ou soit aiment pas. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça quand même... Alors, c'est au cinéma, c'est bien, à mon avis, différent que de le voir à la télé. Mais j'ai trouvé que c'était un film quand même assez fort en termes de mise en scène. Après, c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était... Mais bon, ça, il y a de tout.
C'est ça l'art.
Il y a de tout.
C'est aussi ça
l'art.
C'est qu'on peut pas plaire à tout le monde.
Toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à la nouvelle génération. Enfin, conseil, on va dire un point de transmission sur les nouveaux entrants dans les métiers que tu...
De s'intéresser surtout aux métiers qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils aillent poser des questions, qu'ils aillent visiter, que quand ils font des week-ends entre copains, entre copines dans n'importe quelle région de France, qu'ils posent des questions et qu'ils aillent découvrir les régions. Parce qu'ils vont apprendre énormément d'abord de choses et puis de choses qui vont être importantes pour eux dans l'avenir.
Exactement, donc découvrir.
Comme
le musée La Piscine
que j'ai.
Et
surtout accepter de recevoir la transmission.
Et je faisais un aparté parce que j'étais marqué, je suis allé à Roubaix vers Lille. J'ai découvert le musée La Piscine qui est quand même moins, qu'on ne connaît pas forcément tout le temps et qui m'a très étonnant.
Par exemple avec l'artiste John Wan.
Voilà.
John Wan est très impliqué à Roubaix, il a encore son atelier là-bas. Personne ne le sait, c'est un des plus grands artistes américains aujourd'hui contemporains et il a son atelier à Roubaix et il ne quittera pas Roubaix parce que c'est son histoire et d'ailleurs je crois qu'il a fait des tags pour la piscine. Donc c'est aussi se rendre compte et ce qui est amusant c'est de voir comment les gens qui sont arrivés en France, comment ils se sont imprégnés eux de cette culture française et comment ils l'ont retranscrit. C'est très très beau à voir et surtout il faut aller poser ces questions-là.
Merci beaucoup Vanessa.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.